dans les Chroniques Rebelles aujourd'hui avec un livre d'Annie Lacroix-Riz, publié aux éditions Delga Le Temps des Cerises, l'histoire contemporaine, toujours sous influence. Nouvel opus de l'histoire officielle sous influence d'Annie Lacroix-Riz, dans lequel elle dissèque avec minutie les discours d'allégeance et les analyses, toujours du bon côté du manche, de certains et certaines de ses collègues universitaires. Des noms, eh bien là, vous en aurez, et pas des moindres, côté encensement médiatique et notoriété universitaire. Annie Lacroix-Riz argumente en s'appuyant sur des textes, des déclarations officielles, des recherches internationales, diverses contributions, les médias et bien sûr les archives. Les archives, c'est là où le bât blesse. À cela, plusieurs raisons en forme de questions. Quelle liberté a-t-on pour accéder aux archives? Qui peut y accéder? Quel est le tri effectué? Selon quels critères et sous quelle autorité? Quelles sont les classifications diverses, interdites, confidentielles, etc.? Toute une batterie de règles et de codes qui semblent être mises en place pour freiner les historiens et les historiennes, avec ou sans statut, désirant examiner les faits, les documents, afin de cerner les différentes facettes de l'histoire. Mais voilà, l'histoire officielle se préserve de la recherche qui ne serait pas dans les clous et qui tenterait de déceler certaines contradictions de la vérité historique, entre guillemets, établie une fois pour toutes. Pas question, en effet, de faciliter à d'autres que les experts et expertes adoubés par le pouvoir la possibilité d'établir des vérités historiques différentes de celles en cours, c'est-à-dire validées par les autorités politiques, les groupes de pression ou la finance. En France, le débat contradictoire n'a plus cours. Donc je résume. Il y a les historiens et historiennes dans le moule qui visent leur carrière à défaut de leur intérêt dans la recherche, et il y a les autres, beaucoup moins médiatisés par voie de conséquence. Il est vrai que deux ou trois phrases dites à la télé devant des millions de téléspectateurs et téléspectatrices, waouh, ça le fait, camarade, ça vous place un homme ou une femme d'ailleurs. La pipolisation frappe partout, même et surtout les intellectuels, prêts et prêtes à tout pour parler à la télé ou sur des radios mainstream, comme on dit. C'est en quelque sorte une consécration. Heureusement, il y a encore des intellectuels critiques quand même, et des radios aussi. Troisième opus donc de l'histoire contemporaine toujours sous influence, qui revient notamment sur la dépendance des chercheurs raisonnables, un qualificatif sur lequel nous reviendrons, dépendance des chercheurs raisonnables vis-à-vis de la tendance grandissante au financement extérieur des travaux historiques et à la création de commissions privées ou publiques d'origine extra-universitaire, jugées funestes à l'indépendance des historiens et des historiennes. Et bien entendu, seront évoquées les conséquences de cette dépendance au plan universitaire et plus largement au plan social. D'autant que le rapprochement entre grand capital et historien se serait accentué depuis les années 1990. Les affaires Touvier, Renault, la collaboration du patronat français durant l'occupation nazie, autant de sujets revenus sur le devant de la scène qui pourraient avoir joué un rôle dans ce rapprochement. La com exige en effet de soigner l'image de certaines entreprises, image quelque peu ébréchée par la période vichyste de la collaboration. Aujourd'hui, nous parlerons de recherche historique, de l'histoire contemporaine toujours sous influence, de l'histoire officielle et normée, de contre-pouvoir et comme toujours de propagande. Dans le contexte actuel de la crise générale du capitalisme, l'histoire indépendante du pouvoir de l'argent finira bien, comme l'écrit Annie Lacroix-Riz, par faire reculer l'histoire de connivence.
C'était Billy Bragg à tous les fascistes. Vous êtes à l'écoute des Chroniques Rebelles de Radio Libertaire 89.4. Pour nous joindre au téléphone pendant les pauses musicales, 01 43 71 89 40.
Voilà, et donc nous parlons avec Annie Lacroix-Riz de son dernier, nouveau, pas dernier, mais nouveau bouquin, L'histoire contemporaine sous influence. C'est un livre donc qui fait suite aux deux premiers que tu as déjà écrits sur la question.
Voilà, et qui est complète.
Voilà, qui complète en quelque sorte, puisqu'on vient déjà d'avoir un appel qui nous dit, mais alors c'est quoi? C'est le même, c'est une réédition, qu'est-ce que c'est? Alors il faut que tu expliques
voilà,
un petit peu.
Alors c'est une grosse réédition avec un gros complément qui permet de faire le point sur ce que j'appelais l'histoire contemporaine sous influence, sachant que de la deuxième édition, 2004 à la troisième, celle de 2004 d'ailleurs donnait un petit ajout par rapport à la première qui devait dater de quelques mois auparavant d'ailleurs, Alors que là, il s'agit de quelque chose de neuf, parce que on peut, 8 ans après, et quand en 2004, on prévoit certaines tendances, on fait des hypothèses sur ce que va être la suite, on perçoit, c'était mon cas, une toute petite lueur d'espoir immédiate, et qu'on se retrouve avec 8 ans de bilan, on peut faire quelque chose d'autant plus complet que 8 ans, ça suffit pour dire si, sur un certain nombre de questions essentielles, on a progressé, on a stagné ou on a régressé. Or, on a réellement régressé parce que on se trouve dans une situation de tutelle sur la recherche, qui doit bien sûr beaucoup aux éléments structurels, hein, puisque la prétendue réforme de l'université, j'en discutais ce matin dans le cadre d'une réunion entre professionnels des sciences sociales, la réforme de l'université est en passe de liquider pratiquement les sciences sociales en France. Et ce que j'explique évidemment dans cet ouvrage et dans la même veine qu'en 2004, c'est au fond, mais je crois que ça doit être dit, ce qui constitue la responsabilité spécifique de l'historiographie elle-même dans le sort qui lui est fait. Donc mon objet, c'est naturellement pas de dire que c'est parce que les historiens font n'importe quoi qu'on nous a cassé l'université. Ce que je veux montrer, c'est qu'au fond, l'évolution de l'historiographie, elle s'inscrit dans l'évolution de la crise du capitalisme, qui est impitoyable pour tout ce qui n'est pas l'argent, qui a pour objet de sacraliser l'argent, et qui est également impitoyable, qui agit de manière impitoyable avec toute tendance contraire. Et évidemment, ça m'a conduite, alors c'est quelque chose d'un petit peu gênant, parce que il se trouve que j'ai une carrière universitaire ou un cours de recherche, je ne dirais pas particulier, mais enfin tout le monde l'a pas, c'est-à-dire que je fais de la recherche sans arrêt depuis... j'ai passé la grègue en 1970, donc depuis 1970, je n'ai jamais arrêté de faire de recherche. Je dirais même que au fil des décennies, j'en ai fait plus, hein, quand les obligations maternelles, etc., quand même, voilà, on peut passer à autre chose. Enfin, bon, je fais plus de recherche que je n'en faisais il y a 42 ans. Et que, par conséquent, je peux, évidemment, dans les domaines qui sont les miens, ils sont assez divers, juger de l'évolution historiographique, et dans des domaines assez divers, parce que, évidemment, je suis, comme tout le monde, je suis une spécialiste étroite, mais enfin, quand même, je traite des relations internationales au XXe siècle. Dans ce cadre, je traite de la collaboration, je traite de l'histoire de la politique extérieure du Vatican, enfin, de choses assez larges, quand même. Et quand je regarde à la fois l'évolution de l'historiographie et le sort qui est fait à ce que je pourrais appeler l'historiographie indépendante, je suis bien obligé, évidemment, de donner un nom, ce que je n'ai pas fait pendant longtemps, mais de donner un nom, et je dois dire que je donne un nom d'autant plus que, finalement, on est parvenu à un niveau de la supercherie qui impose de nommer. Alors, je vais me faire comprendre. Non seulement un certain nombre de mes collègues ont participé à des missions et commissions dont j'estime qu'elles ont fait un mal inouï à l'histoire et un mal inouï à la population française, parce que ces missions et commissions ont prétendu informer de manière indépendante, scientifique, la population, qui a bien dû s'en réjouir, ou dont une partie a bien dû s'en réjouir. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, surtout dans la dernière période, et c'est vraiment ça qui m'a incité à nommer, on a eu des éloges multipliés sur les efforts que l'historiographie dominante a fait pour éclairer les zones d'ombre de l'histoire, comme disent mes collègues. D'ailleurs, quand on est sérieux, on sait bien que des zones d'ombre, il y en a partout, pas seulement de 1939 à 1945 ou de 1940 à 1944, voilà. Et que il sort de tous les côtés des articles, y compris évidemment dans le journal de référence, qui certifie non seulement les très bonnes intentions des historiens ayant pignon sur rue, étant invités à la télévision, à la radio, etc., mais que ces articles expliquent qu'ils ont vraiment fait tous les efforts pour éclairer ces zones d'ombre. Et il y a un article, alors il y a plusieurs articles qui m'ont particulièrement révulsé dans la période actuelle, je vais d'ailleurs les isoler, c'est à chaque fois le journal de référence. Il y a eu, bien entendu, en janvier 2011, la contribution du Monde Magazine via Thomas Vider et une journaliste dont le nom m'échappe, un article qui a lancé, on peut le dire, lancé en grand la campagne dite de réhabilitation de Louis Renault par ses héritiers, en particulier par le couple qui a occupé les médias depuis lors. Et vraiment, c'est une entreprise de sabotage historique, de mensonge historique systématique, et qui s'accompagne en plus de la mention habituelle du style « les historiens sont divisés ». Et quand on dit les historiens sont divisés, on ne cite que les historiens qui précisément soit n'ont rien à dire, soit ne sont pas spécialistes de la question, soit finalement disent la même chose. Bon, ça m'avait évidemment d'autant plus fâché que les militants de la CGT qui s'étaient battus pendant des décennies pour empêcher toute réhabilitation à l'intérieur de l'entreprise m'avaient demandé une aide en quelque sorte technique et historique pour essayer d'établir la vérité qui était violée de manière scandaleuse dans ce Monde Magazine de janvier 2011. Et puis alors, dans la dernière période, il y a eu un article d'une dame qui s'appelle Nicole Vulser dans Le Monde, en novembre 2011, je dois dire qu'il m'a peut-être encore plus fait sortir de mes gonds, qui était un article exposant comment un certain nombre d'historiens ayant pignon sur rue, et dont j'ai souvent parlé d'ailleurs quand tu m'as invité, quand j'ai été invité à Radio Libertaire pour évoquer l'état de l'historiographie, elle citait donc ces historiens et elle expliquait que ces historiens avaient tout fait pour faire sortir la période de l'occupation et le rôle du patronat sous l'occupation de la zone d'ombre où tout de même le patronat avait eu la tentation de l'enfermer. Or, c'était un tel mensonge... Et c'était un tel mensonge qui avait pour moi des aspects personnels, évidemment, parce que c'était la brochette d'historiens qui avait précisément tout fait depuis, on va dire, les années 1990, et avec encore plus d'ardeur à partir de 2002, c'était les historiens qui avaient tout fait pour mettre la chose sous le boisseau, mmh, et pour honorer ce qui est leur fonction, et dont il faut que les gens... sache que c'est la fonction, parce que c'est quand même une fonction que beaucoup de gens ignorent pour les universitaires. Il s'agissait de cacher leur propre fonction de représentants de ce que j'appelle l'histoire tarifée ou non indépendante, c'est-à-dire que les uns et les autres appartiennent à des structures patronales, des structures publiques, etc.
Mais c'est juteux quand même, faut le dire.
Très juteux, qui Banque de France, après avoir fait la RATP, entreprise du bâtiment, de telle sorte d'ailleurs que l'historien en question se fait appeler dans le milieu Monsieur Bâtiment, parce que le milieu est extrêmement hypocrite, je suis la seule à prendre la parole, mais enfin, ce que je dis, tout le monde le sait, enfin tout le monde le sait dans le tout petit monde de l'université d'histoire contemporaine, d'histoire économique, mais voilà, il est bon que ça ne reste pas confiné à ce tout petit milieu, et ils ont une responsabilité éminente, et moi évidemment je suis historienne, je sais ce que c'est que le métier d'historien, je sais ce que c'est que de passer des années à faire un livre, et à faire un livre dans le silence et la durée, parce qu'on ne peut faire de bonne histoire qu'à partir du moment où on travaille longtemps, où on croise les sources. Je sais aussi ce que coûte la qualité de l'histoire le fait de supprimer l'indépendance financière des historiens. Or, c'est le cas. Et je suis bien obligée de dire, je suis obligée, c'est un petit peu gênant parce qu'évidemment, ça me touche moi, mais il faut bien que les lecteurs comprennent que ça n'est pas en l'occurrence ma petite personne qui m'intéresse. Je n'ai pas d'état d'âme personnel, j'ai très bien géré l'opposition dans laquelle je me suis trouvée. Par contre, il faut bien que je montre ce que ces historiens sont capables de faire contre la recherche historique, et il se trouve, par le malheureux des hasards, que, étant donné que finalement il n'y a plus eu qu'une fantaisiste pour s'occuper de la chose de la manière dont on s'en occupait il y a 30 ou 40 ans, bon, il se trouve que c'est sur moi que c'est tombé, et que ces gens ont déployé des efforts, mais surhumains, pour finalement mettre dans l'ombre des travaux qui étaient des travaux honnêtes, mais qui s'agissait surtout de ne pas faire connaître, parce que leur fonction tarifée les empêche notamment d'expliquer ce qui s'est passé dans le patronat après la défaite, les empêche aussi de dire ce qui s'est passé avant la défaite.
Oui, parce qu'il y a tout, c'est pas d'un seul coup, c'est pas sorti du chapeau.
Absolument, ça n'est pas sorti du chapeau, et je dirais que leurs efforts, bien que ça ne touche pas forcément les mêmes, leurs efforts sont égaux pour faire ignorer, que pour laisser dans l'ignorance le fait que la grande bourgeoisie française a préparé la défaite de la France à tous égards et en tout domaine, et que, ayant préparé cette défaite de la France pour pouvoir mieux collaborer avec une Allemagne nazie dont le modèle social était extrêmement séduisant, on y reviendra peut-être, eh bien, ces gens ont profité de la présence des Allemands pour porter l'exploitation à un degré qui n'avait pas été atteint sans doute depuis le 19e siècle, voire même jamais été atteint, puisque quand même en 4 ans, la classe ouvrière et les petits employés ont perdu quelque chose comme 50% de leur pouvoir d'achat. Réfléchissons bien, hein, c'est quasiment mieux que les Grecs sur les 3 dernières années, donc que tout le monde voit bien ce que ça veut dire concrètement, que cette classe ouvrière et ses petits employés sont sortis de la deuxième de l'occupation avec plus de vêtements, plus de chaussures aux pieds et même plus de pneus à leur vélo, à une époque où la classe ouvrière et les petits Français se déplaçaient à vélo, et que empêcher la population de savoir ce qui s'est passé, je considère que c'est commettre une faute grave. C'est commettre une faute grave sur le plan scientifique, bon, qui évidemment m'importe puisque je suis scientifique.
Hein. Oui, mais le problème, Annie, c'est, on comprend bien justement le problème qui existe, disons, chez les historiens, mais moi je vois au-delà de ça, et je pense que tu vas évidemment l'aborder, c'est-à-dire que non seulement ça cache à ceux et celles qui veulent en savoir un peu plus et qui sont dans la population en général, mais ça a aussi une conséquence sur les livres d'histoire.
Absolument. Alors d'abord, ça cache à la population. Il faut se rappeler au surplus que c'est à la population, parce que l'historien, ça n'est pas celui seulement qui fait des livres et qui vend ses livres ou qui se fait balader sur les plateaux de télévision et de radio. C'est quelqu'un qui enseigne. Bon, l'enseignement supérieur assure la réalisation des manuels, même si un certain nombre de manuels d'histoire sont faits avec des professeurs du secondaire. Il y a toujours des professeurs, des gens de l'enseignement supérieur pour chapeauter et contrôler ces manuels. Et donc, les enseignants concernent directement la totalité de la population, puisque passent entre leurs mains des générations entières de jeunes gens. Et que, bien entendu, des programmes de concours, tant qu'il y avait des concours, bien qu'ils aient été beaucoup sabotés, réduits ces derniers temps, des programmes de concours dépendent de l'enseignement qui sera assuré par une génération d'enseignants. Et c'est un aspect que j'aborde dans le livre, parce que un certain nombre de questions de concours dans le en histoire contemporaine ont été de véritables entreprises de propagande destinées à laver le cerveau de la population, d'abord des jeunes professeurs qui devaient évidemment montrer patte blanche pour avoir le concours, et ensuite évidemment des générations d'enfants qui seraient formés, et que Il s'agit là d'une entreprise de propagande, que ce soit la présentation de l'Europe de 19 à 89, ou que ce soit l'Europe, la question européenne, alors là qui a battu tous les records et qui était une véritable question de propagande proprement dite. Ça veut dire donc que le corps enseignant, et en particulier donc les historiens, ont une responsabilité éminente dans la formation de la population, et que ils ont une autre fonction que scientifique, ils ont une fonction civique. Ils sont chargés d'instruction civique, et l'instruction civique, par exemple, à l'exaltation de l'Union européenne, c'est une entreprise, comme le reste, de pure propagande. Et c'est une entreprise qui met les enseignants, évidemment, dans un carcan, ou qui ne les met même plus dans un carcan, parce que quand ils ont été chauffés pendant un certain nombre d'années d'études, ils font ça tranquillement, sans état d'âme, etc.
Et en toute bonne foi.
En toute bonne foi. Et que tout le monde ignore que on se trouve avec une situation où, alors que les historiens étaient tout à fait indépendants et tenaient leurs moyens d'existence, ma foi, de ce que leur assurait le contribuable sans rien leur demander, parce que quand on est bénéficiaire du statut de la fonction publique, on touche un salaire, et que si on ne porte pas atteinte à l'intégrité, notamment à l'intégrité physique de ses élèves, on est quand même à peu près tranquille. Et on se trouve, alors ne parlons même pas des enseignants précaires qui, vu le caractère précaire de leur statut, sont bien entendu encore beaucoup plus sensibles aux pressions des inspecteurs, aux pressions du corps, pour que leur enseignement soit conforme, pro-européen, démontrant que le capitalisme est la meilleure chose qui ait jamais existé à la surface de la Terre, que le socialisme réel a été une abomination, etc., que finalement le fascisme plutôt, ou le nazisme sont plutôt moins graves que les transformations qui ont été incarnées en Union soviétique. Enfin, tout ce genre de choses fait que les historiens ont une responsabilité éminente dans la formation des gens. Et d'ailleurs, le patronat le sent très bien, puisque depuis 30 ans, il a fait auprès des historiens une OPA qui a d'ailleurs bien fonctionné. Et je le signale d'ailleurs parce que dans la réunion dont je parlais ce matin, il y a un collègue à un moment qui parle de cette espèce de diffusion spontanée de l'idéologie, par exemple, qui consiste à inviter certains intellectuels, pas d'autres, pas du tout. C'est véritablement une stratégie.
Voilà, tout à fait.
Avec une tactique de communication, une tactique de médias qui est conduite de manière rigoureuse, qui consiste à inviter les bonnes personnes, à ne pas inviter les autres. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler à cet égard un épisode qui montre à quel point la pression est féroce, et que je rappelais ce matin. Par exemple, parce qu'il y a des journalistes honnêtes, même dans la grande presse, des journalistes qui voudraient faire leur boulot, il y en a. Il y a des gens qui sont des gens de représentation payés très cher pour faire n'importe quoi, mais il y a des professionnels honnêtes. Et parmi ces professionnels honnêtes, par exemple, l'année dernière, il y a eu un journaliste qui, pour la revue Géohistoire, qui dépend du groupe Prisma, lequel dépend du groupe allemand Bertelsmann, pardon, qui a fait une carrière nazie fabuleuse, qui a démultiplié sa fortune et qui en a fait un des grands groupes de presse de l'après-Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ce journaliste avait fait... Il se trouve que c'était essentiellement sur la base de mon ouvrage « Industriel et banquier ». C'est pas parce que je ne le connaissais pas, il connaissait mes travaux, il connaissait forcément mes travaux, parce que si on veut parler de la collaboration patronale, c'est sinistre et triste, mais il n'y a que moi sur le marché. Et donc, manifestement, il avait lu mon livre, il avait fait une étude sur le patronat sous l'occupation, puisqu'il devait s'insérer dans un numéro spécial de Géohistoire qui portait sur le thème « La France sous l'occupation ». Est-ce qu'il viendrait à quelqu'un qui a le moindre bon sens l'idée que la France sous l'occupation peut se passer d'un chapitre sur l'économie? On peut penser que non, mais c'est quand même ce qui s'est finalement produit. Donc, il a utilisé mon ouvrage qui était un ouvrage critique, parce que ce garçon voulait savoir les choses, donc il est allé là où il pouvait. Et puis il a utilisé l'ouvrage critique, ma foi, on appelle ouvrage critique finalement l'ouvrage qui est tout simplement l'ouvrage qui doit être fait. Hein. On parle de quelque chose, on essaie d'en parler correctement. L'ouvrage d'une jeune journaliste et scientifique qui s'appelle toujours Bonvicini et qui s'est reconvertie à je ne sais plus quelle activité dans les médias. Elle avait fait cette petite une étude de Vuitton sous l'occupation. Et elle s'était engagée sur un chemin, il faut bien le dire, périlleux, puisque l'étude était chapeautée par Vuitton. Mais cette personne était honnête, et évidemment, elle a trouvé que Vuitton avait considérablement accru sa fortune dans le service à Vichy. Et encore, si c'est pas une étude qui insiste beaucoup sur la collaboration avec l'Allemagne, mais qui montre évidemment à quel point la famille Vuitton était réactionnaire, fasciste, etc. Enfin bon, toute chose tout à fait banale concernant la grande bourgeoisie. Et la pauvre enfant qui devait avoir une présentation médiatique absolument faramineuse de Vuitton, qui, comme on le sait, est un énorme contributeur publicitaire de la quasi-totalité de la presse, eh bien, la pauvre petite, ayant déjà eu des ennuis parce que elle était allée demander ici et là des archives sur Vuitton et s'était fait répondre que les archives avaient disparu, la pauvre enfant a quand même fait un ouvrage correct, et naturellement l'ouvrage n'a bénéficié d'aucune couverture médiatique. Et alors là, on entre évidemment dans ce qui est caractéristique de la liquidation de l'histoire sérieuse, qui consiste non seulement, je dirais qu'il consiste à utiliser deux tactiques, soit enterrer purement et simplement, soit laisser entendre que l'auteur qui a tout simplement fait son travail est une espèce, en l'occurrence ce sont deux femmes, est une espèce de cinglée, pour ne pas dire hystérique et paranoïaque, non vraiment, celle-là vous n'allez pas l'inviter, ça je ne le raconte pas dans le livre, mais c'est comme ça que ça se passe, parce que même les journalistes honnêtes disent, et qui ne se sentent pas évidemment des compétences en histoire, c'est bien normal, chacun fait son métier, ont besoin de conseillers historiques, et les conseillers historiques leur disent: ah non, à celle-là, à celui-ci, ah non, 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 mais vous ne l'inviteriez pas, vous n'allez pas faire des choses comme ça. Donc il faut bien voir comment des historiens non indépendants sont en mesure, évidemment, non pas d'empêcher des historiens indépendants de faire leur boulot, parce que à cet égard, ils n'ont qu'un pouvoir réduit. Ils peuvent évidemment éventuellement faire des barrages financiers à des historiens qui auraient besoin d'argent pour s'en aller à l'étranger, mais il se trouve qu'il y a des historiens indépendants qui peuvent travailler avec peu d'argent. C'est mon cas, qui passe ma vie dans les archives. Mais ma foi, je ne vais pas à l'étranger, ben c'est pas grave, je travaille sur les archives publiées. Que ceux qui me critiquent aillent travailler autant que moi sur les archives, on verra après.
Ah bon, t'as pas beaucoup de collègues là qui viennent travailler dans les archives, tu les rencontres pas dans les archives?
Ah ben écoutez, il y a quelques années, une directrice des archives, Isabelle Neuschwander, fort courageuse, qui s'est d'ailleurs fait évincer des archives nationales parce que du temps de Sarkozy, elle s'opposait vivement à cette imbécilité coûteuse et destructrice de la maison de l'histoire, est venue me voir il y a quelques années, parce que en gros, je suis où aux archives, où je rédige, donc quand on me voit pas aux archives, c'est que je rédige, mais quand je ne rédige pas, je suis aux archives. Et un jour, elle vient me voir et elle me dit, bah dites donc, les gens de votre génération n'en voient pas beaucoup, hein. Finalement, vous êtes la seule, et elle brocarde devant moi un historien dont je suis charitable, je tairai le nom, qui s'occupe beaucoup des archives et sur lequel elle ricane en me disant, bah ce serait bien que, parlant beaucoup des archives, il y mette les pieds de temps en temps. Bon, alors bien sûr que les conservateurs d'archives le savent, qu'en contemporaine, on consulte peu les archives, sauf quand on fait une thèse. Et quand on fait une thèse dans une atmosphère comme ça, d'abord qui doit être raisonnable, qui doit éviter des sujets dangereux, si elle n'évite pas des sujets dangereux, qui doit les traiter d'une manière congrue, enfin bref, on se trouve enserré dans une espèce de carcan dont je ne dirais pas que les gens n'ont pas idée, dont les gens peuvent avoir une idée en se représentant leurs propres conditions de travail. Tout le monde, ou presque tout le monde aujourd'hui, est victime de conditions de travail. J'entends quand il n'est pas organisateur du procès de production et quand il n'est pas là pour virer les autres, les martyriser, etc. Encore que ceux-là, quelquefois, quand ils ont fait des plans sociaux, ils se retrouvent les derniers. Je dirais comme quand les gens de l'Union Générale des Israélites de France ou les divers comités juifs, les Judicherät analysés par Raoul Hilberg, avaient organisé la déportation des autres et puis se trouvaient dans le dernier convoi. C'est arrivé. Mais bon, en général, ceux qui ont assuré à très haut niveau les misères des autres restent quand même privilégiés. Eh bien, on se trouve donc dans une situation où les gens se rendent bien compte que leurs conditions de travail, même dans des fonctions éminentes, dans des fonctions de réflexion, pas seulement dans des fonctions d'exécution, je pense à des gens avec lesquels j'ai discuté récemment, des psychologues, des psychiatres, etc., sont confrontés à des conditions de travail infernales. Eh bien, il faut se rendre compte que créer une situation dans le milieu universitaire peut aboutir pratiquement à des phénomènes de ce genre, parce que évidemment, ça institue une pression intolérable sur les jeunes chercheurs. Imaginez aujourd'hui un jeune chercheur qui veuille faire une thèse sur l'histoire du mouvement ouvrier à tel moment, comme on les faisait il y a 40 ans. Il ne pourra pas, parce qu'il ne trouvera pas de directeur de recherche. S'il trouve un directeur de recherche et qu'il est en formelle opposition avec lui, ce qui arrive, moi j'ai été en formelle opposition avec mon deuxième directeur de recherche, qui était quand même un honnête homme, qui s'appelait Jean Bouvier. On était en désaccord, mais comme c'était un honnête homme et qu'il le demeurait, qui avait d'ailleurs été longtemps marginalisé parce qu'il était militant du Parti communiste, il ne l'était plus, mais il n'avait pas claqué la porte avec éclat comme un certain nombre d'autres, dont ça a favorisé la carrière, évidemment, avec une grande accélération. Il est vrai que son départ l'a favorisé, mais il restait un honnête homme. Donc, j'ai soutenu ma thèse avec une opposition ferme à Jean Bouvier. C'est-à-dire que Jean Bouvier voulait me faire dire... J'avais fait une thèse sur la CGT et les conditions de la reconstruction de la France de 44 à 47. Et lui voulait me, et c'est comme ça que je suis devenue spécialiste des relations internationales, parce que j'ai tellement rencontré les États-Unis en travaillant sur l'histoire de la France que ça a représenté une partie considérable de ma thèse et que je me suis orientée après vers les relations internationales et en particulier vers les relations entre la France ou l'Europe et les États-Unis. Et donc, mon directeur de thèse voulait me faire dire que la dépendance à l'égard des États-Unis avait été un gage d'indépendance future. C'était joli d'ailleurs comme idée, hein. Vous voyez, la dépendance de court terme crée l'indépendance de court terme. C'était joli mais miraculeux, et les miracles ne se produisant jamais, naturellement c'était faux, ou j'estimais que c'était faux puisque ma recherche me démontrait le contraire. Donc j'ai eu avec Bouvier, qui était un grand directeur de thèse, parce que c'était quelqu'un, ce qui n'est pas le cas de tous les directeurs de thèse, c'était quelqu'un qui vous lisait tout ce que vous lui envoyiez, la plume à la main, et qui évidemment discutait tout. J'ai eu avec lui des discussions épiques et des échanges épistolaires épiques, mais il a accepté de me faire soutenir ma thèse avec le désaccord demeuré intact. Je le dis formellement, c'est impossible aujourd'hui. C'est impossible depuis, je dirais, 10-15 ans. Moi, j'ai soutenu ma thèse en 81, donc c'est vieux, hein. Ça remonte à plus de 30 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai mesuré en tant que praticienne, en tant qu'historienne, à quel point il y avait eu une dégradation du statut de l'historien. Qu'aujourd'hui, un jeune... Qui voudrait, par exemple, travailler sur un des sujets sur lesquels je travaille, par exemple sur la collaboration patronale, aille voir un directeur de recherche en lui disant, voilà, je voudrais travailler sur les relations de Renault avec les Allemands, eh bien, il ne le pourrait pas. Il ne trouverait pas de jury. Et il faut le savoir, si on se trouve à l'égard de son jury, et notamment à l'égard de son directeur de thèse, aujourd'hui en opposition formelle, eh bien, on peut vous refuser la soutenance.
Ouais.
Parce que le camp du des doctorants est devenu faible, comme le camp des salariés, bien que le directeur de thèse ne soit évidemment pas au sens économique un patron, mais enfin, il est quand même au moins en partie maître de votre carrière future.
Absolument.
Même s'il ne peut pas la garantir, il peut vous la bousiller.
Ah, il peut te saquer.
Voilà. Mmh. Eh bien, on se trouve donc dans une situation de ce type qui vous explique très facilement que l'histoire sociale de la classe ouvrière, l'histoire des rapports sociaux est disparue parce que l'histoire des rapports sociaux, elle est incompatible avec le statut de la kyrielle d'historien auquel Nicole Vulser accorde le label d'avoir tant fait pour connaître les entreprises sous l'occupation, alors que ce quarteron d'historien fait tout pour que, et je dirais dans des conditions de dépendance à l'égard des firmes ou à l'égard de tel organisme public, fait tout pour que précisément ne soient jamais éclaircies les conditions dans lesquelles le patronat a œuvré de 1940 à 1944, sans parler des décennies antérieures.
Ça, ben, ma foi, pas de revendication.
Voilà,
hein.
Surtout voilà. Pas de rêve.
Alors cette histoire d'Europe, justement, quelqu'un nous le faisait remarquer au téléphone, cette histoire d'Europe, finalement, mais on l'a dit depuis le départ, moi je sais qu'ici, à Radio Libertaire, le traité de Maastricht, on a dit, mais c'est l'Europe du fric et des flics, c'est clair.
Mais l'Europe a fait l'objet, depuis qu'elle existe sous sa forme contemporaine, disons, depuis le deuxième après-guerre, officiellement avec le fameux discours de Schuman du 9 mai 1950, annonçant la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'Union européenne repose sur une gigantesque supercherie ou mystification de la population, puisque c'est Uri Ferrer, ses porte-paroles expliquaient que c'en était fini du chômage, qu'on entrait dans la période de la prospérité ininterrompue, que on se retrouverait dans une situation de paix perpétuelle, que le comité des forges serait aboli. Je dois vous le dire, c'est par exemple quelqu'un comme André Philippe, le socialiste André Philippe, qui était financé par le comité des forges, qui disait que le comité des forges disparaîtrait. Rien de mieux.
Voilà. Écoute, il était dedans, donc il savait.
Voilà. Bon, ces dernières décennies, on a fait croire aux populations, et les historiens ont une éminente responsabilité, évidemment, qui ne sont pas à l'origine de... Mais qu'est-ce que c'est que des historiens, finalement, dans le rôle là qui leur est dévolu? Ce sont tout simplement des auxiliaires idéologiques. Et un auxiliaire du capital, c'est pas le capital. Mais il faut quand même que la population se rende compte, et d'ailleurs, il y a des historiens, il y en a peu en France, mais il y en a un peu plus dans certains autres pays. Les historiens sont supposés faire comprendre à la population que ce qui détient le pouvoir, c'est ceux qui possèdent, c'est ceux qui possèdent les moyens de production et d'échange. Et ceux qui possèdent, puisque ce sont des individus, ceux qui possèdent les moyens de production et d'échange, régissent toute la société. Mmh. Ce que, naturellement, leurs auxiliaires, puisqu'ils en ont dans divers domaines, ils ont des auxiliaires idéologiques, ils ont des auxiliaires politiques, ils ont des auxiliaires culturels, ils ont tout ce qu'on veut. Leurs auxiliaires scientifico-culturels et idéologiques font partie, alors il y a aussi leurs auxiliaires journalistiques, font partie de ceux qui diffusent une légende destinée à maintenir la tutelle de ces milieux sur l'ensemble de la population. Comme je dis toujours, ça a l'air un peu à l'emporte-pièce, mais enfin, ça me semble pourtant tellement frappé au coin du bon sens. Vous ne voulez tout de même pas que des gens qui gagnent en une heure plus que 25 personnes ou 1000 personnes en une vie donne à ces personnes la connaissance de ce qui se passe. Parce que si ces personnes avaient la connaissance intime de ce qui se passe, elles ne le supporteraient pas. Il faut donc leur diffuser une berceuse, je dirais un double discours. Une berceuse d'un côté pour leur montrer que le monde dans lequel ils vivent est un monde de rêve et de toute façon qui ne saurait être dépassé. Et un monde d'enfer, exactement comme l'Église catholique, qui d'ailleurs s'inscrit dans les auxiliaires, le fait pour les populations et les monnaies droits, c'est-à-dire une vision d'enfer de ce que surtout il ne faut pas aller faire. Alors voilà, les subversifs, évidemment, les rouges, particulièrement les bolcheviques, particulièrement Staline. Oh, mais vous trouvez que la vie est impossible, mais surtout, n'allez pas envisager autre chose, c'est 10 fois pire. Je dirais que l'effort idéologique, il va dans ces deux sens. D'un côté, alors avec des nuances, parce que vous avez évidemment le pour le tout venant. Hein, vous avez TF1, vive la société et disputez-vous pour le fric. Oh là là, voilà, allez au jeu dont j'ignore même le nom, je me rappelle plus, mais je sais que les pièces tombent.
Ah ben attends, il faut bien. Voilà, avant il y avait le gâteau.
Voilà.
Quand tu allais dans le ciel, maintenant il y a la machine à sous.
Voilà, la machine à sous et divers autres choses du style le loto, bingo, etc. Ce qui permet d'ailleurs de faire croire aux populations que Madame Bettencourt ait gagné au loto ou l'héritage Bernard Arnault, ça relève de la même chose que le bingo que pourrait avoir le brave Pékin qui joue toutes les semaines au tiercé ou à je ne sais quoi, hein, finalement. Et quand ils ont des ennuis, vous avez ces gens qui ne gagnent rien et qui pleurent en disant que quand même c'est dégoûtant, hein, parce que finalement ça doit pas être taxé, et puis eux ils pourraient transmettre leur héritage sans payer de taxes. Ma foi, ils en feraient autant, ils n'ont pas d'héritage à transmettre, mais ça c'est la partie rose qui permet de faire avaler à la population son triste sort. Et puis dans cette partie rose, il y a, je dirais, la partie aristocratique, c'est-à-dire pour Bac+5 ou Bac+10 ou Bac+5 ou Bac+15 ou 35, c'est-à-dire la manière aristocratique, intelligente, nuancée, etc. La partie qui est dévolue aux historiens de confort et de connivence. C'est-à-dire, regardez donc finalement comme ce patronat est dynamique. Ce patronat est le sel de la terre. La classe ouvrière, celle-là, elle ne nous casse les pieds qu'avec ses revendications débiles. Ça vous fait le bouquin sur l'UIMM dont je parlais déjà en 2004 et que je continue évidemment à vanter, parce qu'il faut quand même oser trouver des historiens professionnels chapeautés par Marseille, paix à ses cendres, pour avoir besoin de refaire leur toiture et écrire la cochonnerie qu'a publiée l'UIMM, qu'a financé l'UIMM et de laquelle il ressortait.
L'UIMM, faut que tu nous dises ce que c'est.
L'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, ce qui vous montre, alors que beaucoup de sigles changent, la prégnance du comité des forges,
ouais,
puisque
voilà,
c'est le même sigle que l'Union des industries métallurgiques et minières, qui conduit le sort de la France, longtemps avec le comité des houillères, disons depuis leur naissance, c'est-à-dire depuis Napoléon III. Je dis bien, conduisent la France. Et donc, il s'agit là de montrer que la classe ouvrière, elle, a emmouscaillé tout le monde, alors que lui-même est quand même l'auteur de l'essentiel de l'acquis social de la France. Je veux dire, n'importe quel historien, je dirais que même, en tout cas à l'époque où je passais les concours, un jeune homme ou une jeune femme fraise et moulue des concours savait très bien que lui-même était une machine de guerre sociale qui avait tenté d'écrabouiller dans toutes les mesures possibles la classe ouvrière, en particulier celle qui se battait pour ne pas être réduite à la famine. Donc voilà, vous avez dans les auxiliaires, je dirais, toute la gamme. Mais ce que la population ne comprend pas, et ce que l'histoire peut l'aider à comprendre, c'est à quel point ces gens contrôlent tout. Et quand vous trouvez aujourd'hui des historiens qui continuent à affirmer, parce qu'ils vont aux sources, que ces gens contrôlent tout, dans une mesure qu'on ne peut même pas imaginer, parce que si on l'imagine, et si, je ne dirais pas si on l'imagine, si on la décrit sur la base de sources, on se heurte au cœur des vierges tarifées qui vous expliquent que voilà un conspirationniste, voilà un tenant de la théorie du complot. C'est-à-dire que vous avez toute une fraction d'historiographie qui est là pour expliquer que les gens qui travaillent sérieusement sur la stratégie des classes dirigeantes sont des espèces de dingos, des paranoïaques et des hystériques, quand c'est des femmes, qui racontent n'importe quoi. Non, ils ne racontent pas n'importe quoi. Non, ces gens régissent tout, c'est vrai. Et ces gens, quand ils n'ont pas devant eux un mouvement ouvrier qui a des dents, ces gens font ce qu'ils veulent, et nous nous trouvons, et c'est l'état que décrit mon livre, dans une période, certes, qui amorce les grands bouleversements et les grands craquements, nous nous trouvons dans une période de maximum de cette influence des classes dirigeantes sur l'ensemble de la société, y compris la discipline historique, avec rien en face, et pour ceux qui sont en face, je dirais la quasi-impossibilité de s'exprimer. Il ne reste plus de place que pour les dirigeants syndicaux raisonnables, sûrement pas pour les syndicalistes pas raisonnables. Il ne reste plus de place que pour les historiens raisonnables, sûrement pas pour les historiens qui disent comment se passent les choses. Et ça, c'est ce qui se passe à chaque étape extrêmement avancée des crises systémiques du capitalisme, où sur la base du chômage de masse, de la casse contre les salaires, bref, de la réduction d'une partie de la population à l'impuissance quasi totale, où les classes dirigeantes se trouvent en mesure pratiquement de tout dominer jusque dans le champ idéologique. Et il se trouve, on peut le dire aujourd'hui raisonnablement, tout simplement parce que on bénéficie de l'expérience de l'histoire, il se trouve que c'est ce qui se produit avant tous les grands craquements. C'est d'ailleurs la raison, pas seulement parce que je cherche à me faire plaisir, évidemment que la perspective m'en fait plaisir, mais c'est la raison pour laquelle je conclus mon livre en disant, bon, écoutez, on est dans une situation pour l'instant quasi désespérée, mais ça n'a aucune importance finalement, parce que l'histoire reflétant le cours des choses, et je dirais plus que partout en France où l'histoire a eu un rôle politique, notamment depuis la Révolution française, un rôle politique direct, ce qui explique d'ailleurs à quel point l'histoire en France est un enjeu extraordinaire et à quel point il est important pour les classes dirigeantes, qu'elles soient des fonctions économiques ou qu'elles soient des fonctions politiques, il est important de faire taire l'histoire. Je le dis parce que, par exemple, aux États-Unis, vous avez une histoire critique qui est fabuleuse.
Oui, mais attention. Elle a été cassée aussi d'une
certaine. Elle a été cassée,
elle reste, si tu veux, dans une sphère qui est déjà une autre sphère. Il n'y a plus d'éducation sur l'histoire dans les petites classes.
C'est-à-dire qu'elle est faite pour une toute petite minorité qui a le droit à la critique, mais au moins qui y a le droit. C'est-à-dire, par exemple, le milieu académique ou une partie du milieu académique. Alors tu as
la contradiction habituelle.
Voilà. Quoi. Alors tu as tout à fait raison dans le sens où c'est sûr que les gamins qui vont au lycée aux États-Unis et qui d'ailleurs souvent ne font même pas d'histoire puisque l'histoire est optionnelle, ni de géographie. Ils sont
trop
politiques. On peut pas dire qu'ils sont encore pires en géographie qu'en histoire, mais ce qu'ils savent en géographie nous suggère ce qu'ils savent en histoire. Donc c'est vrai, la totalité de la population n'est pas informée, mais comme l'histoire n'a jamais quand même été un enjeu aussi direct que l'histoire en France, finalement il y a une plage de liberté. Comme les États-Unis ont une très grande population, quand même beaucoup d'universités, quand on regarde le nombre des œuvres, on a un nombre d'histoires critiques que personne ne connaît, dont tout le monde se fiche. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs elles sont là, parce que sinon on ne les aurait pas ou on en aurait très peu. Et il y a donc en dehors de nos frontières un pan d'histoire critique qui n'a certes aucun écho, mais qui existe. Et il y a même ce que je montre dans le livre « L'histoire contemporaine toujours sous influence », qui est aussi un aspect très très neuf de l'étude. Il y a même aux États-Unis et en Allemagne, alors même que, bien entendu, le capitalisme, il y a la force et la prégnance qui est la nôtre en France, il y a tout de même quelque chose de qui montre l'état grave de la France, c'est que même les historiens tarifés, et ils sont tarifés, ils ont été en particulier tarifés parce que dans les années 1995, les États-Unis sont rentrés en grande colère contre la Suisse pour des raisons bancaires, qu'ils ont fait croire que c'était pour des raisons morales et que ils ont sommé la Suisse de venir rembourser aux héritiers des juifs lésés avant d'être déportés de très grosses sommes. Et tout simplement pour des raisons de rivalité bancaire transformée en exigence morale, parce que rappelons-le, j'ai fait partie des historiens qui ont étudié cette période et ces questions, les États-Unis ont laissé la Suisse, en toute connaissance de cause, bien entendu, organiser les fuites de capitaux allemands, etc., et bien entendu organiser les cachotteries sur les fameux comptes juifs sur lesquels ont été demandés des comptes en 1995. Donc, sur cette base, des études ont été conduites et les grosses boîtes, la Deutsche Bank, la Dresdner moins, mais il y a eu des études quand même, enfin, je ne vais pas dérouler le bottin, une série considérable de travaux ont été faits sur ces grandes entreprises sous l'occupation ou sous le régime nazi quand c'est en Allemagne, etc. Et alors, c'est extrêmement intéressant d'ailleurs parce que l'essentiel a été réalisé, disons, à la fin des années 90 et depuis, hein, c'est-à-dire, disons, une quinzaine d'années. Et il se trouve que je prépare en ce moment... je reviendrai te voir dans pas si longtemps, l'année prochaine. Je prépare une réédition d'industriels et banquiers sous l'occupation, qui m'a contraint, enfin évidemment, que j'ai faite parce que j'ai une masse d'archives depuis 1999 telle qu'il fallait refaire le livre, et parce que aussi, il y a une bibliographie étrangère qui est gigantesque. Or, elle est pas entièrement, mais elle est très largement représenté par ce que j'appelle de l'histoire tarifée, c'est-à-dire des historiens que je cite comme les miens, hein, comme mes français, ces grands historiens, enfin, ils sont surtout baptisés grands, il est vrai, parce qu'on a besoin de dire qu'ils sont prestigieux, remarquables, tout ça, en supposant que les autres, évidemment, sont très mauvais, donc il est très normal qu'on les invite pas à des colloques. Bon, c'est le même milieu que mes historiens, qui mettent le derrière sur les archives et qui ne vont pas les voir et qui empêchent les autres de les voir. Mais ceux-là, c'est-à-dire des types comme Feldman, comme Peter Hayes, bon, une série d'autres, font des ouvrages de complaisance. C'est vrai. Sur Liegefarben, sur la Degussa, gros truc chimique lié à Liegefarben et possesseur en particulier avec Liegefarben de la fameuse De Gage qui a fabriqué le fameux Cyclone B. Et diverses autres encore. Ils font des études qui sont... Je pense à Feldman qui a fait en 2004 une étude sur Allianz, fameuse entreprise d'assurance. Hein. Mais quand vous lisez leurs livres, vous tombez de l'échelle comparé à ce qui se fait en France. C'est-à-dire que même complaisant, même passant leur temps à dire « Ah oui, mais finalement, c'est pas si grave. Oui, ben oui, ils ont fait organiser le travail forcé. Oui, oui, c'est vrai, ils ont arianisé les biens des Juifs, mais ils ont fait le minimum qu'ils pouvaient, quoi. Ils auraient pu être encore plus méchants. Et puis oui, ils ont utilisé du travail forcé, juif et pas juif, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas de main d'œuvre. Et donc, il y a un discours justificatif insupportable. Mais vous avez des chapitres qui sont l'arianisation, le travail forcé, les camps d'extermination. Vous voulez me dire quel chapitre vous avez chez nos historiens qui, paraît-il, ont fait tout pour débusquer les zones d'ombre sur par exemple, c'est aussi une dimension des ouvrages, sur les choix politiques de la grande bourgeoisie française. Vous n'avez pas un ouvrage, y compris des historiens tarifés, vous n'avez pas un ouvrage sur le patronat allemand qui ne soit un ouvrage qui montre à quel point le patronat allemand a été le cœur du nazisme. Le cœur. Vous voulez me dire quels historiens français montrent que le patronat est le plus est la catégorie sociale, la classe sociale la plus politisée, la plus étroitement politisée de l'ensemble du champ français? Aucun. Si, moi. Bon, ça fait pas grand monde. Alors que c'est une dimension de l'ensemble des autres travaux, y compris des travaux tarifés. Parce que dans tous les travaux tarifés, anglais et allemands, enfin anglophones et allemands, il y a au moins un chapitre sur les patrons et le nazisme. Et moi d'ailleurs je dis, je ne pourrais pas le faire, hein, d'abord parce que évidemment j'ai d'autres champs et puis que je ne suis pas éternel et puis que j'espère qu'il y a bien d'autres gens qui s'y mettront, mais il faut le savoir. Pour travailler sur la Deuxième Guerre mondiale en France, il va falloir nous expliquer quel rôle politique a joué le patronat, exactement le rôle politique qu'il a joué en Allemagne. Moi, j'ai montré ce rôle politique dans l'entre-deux-guerres. Bon, je vais faire un bouquin qui montrera aussi le rôle politique. Mais enfin, je veux dire, je vais pas épuiser tout toute seule. C'est-à-dire que il nous manque, avec ce statut de l'histoire, il nous manque des pans entiers d'histoire. Et le tout sur fond d'efforts médiatiques tels que la population est persuadée qu'elle n'a jamais été aussi cultivée en histoire, puisque on lui colle des émissions sur les origines de la Deuxième Guerre mondiale. Je m'appelle plus la celle qui a été vendue partout, qui avait un nom spectaculaire, comment ça s'appelait, Cataclysme ou je sais plus quoi, un nom comme ça. On nous a dit que c'était la grande émission sur l'avant-guerre, la guerre. Mais je veux dire, tout était à peu près acheté, sauf l'iconographie. Et avec une bonne iconographie, on fait pas une bonne émission de télé. C'est une condition nécessaire, mais ça n'est pas une condition suffisante. Et donc, on se trouve dans une situation où, devenu en quelque sorte l'aile idéologique, l'aile marchande du patronat, une fraction de l'historiographie en France fait en sorte que l'histoire ne soit pas connue. Et moi je trouvais évidemment qu'il était indispensable de le dire, et j'étais bien obligée de le dire sur la base de ma propre expérience, puisque je les ai rencontrés à tous les coins de rue. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation historiographique en France où quand vous abordez des grandes questions, je dirais des questions cruciales, parce que l'Union européenne c'est une question cruciale, le rôle des États-Unis en Europe, même chose, le rôle du patronat dans l'émergence de la solution de Vichy, dans l'accueil à bras ouverts des Allemands, c'est-à-dire dans l'organisation de la défaite, le rôle du patronat dans la réduction de 60% de la population, de 10% de son poids, de 10 kilos, pardon, ça fait même nettement plus que 10% de son poids, de réduction de 50% de son niveau de vie, tout ça, ce sont des questions majeures, et ce sont des questions majeures qui font que vous vous trouvez à une période où presque plus personne ne peut les aborder parce que ça a un coût universitaire absolument exorbitant. Et par conséquent, c'est un champ qui est déserté et les malheureux qui sont là sur le champ découvert et qui sont debout sur le champ découvert, eh ben voilà, ils se font canarder. Mais il faut, j'étais bien obligée de le raconter sur la base de ma propre expérience, qui me gênait beaucoup, parce que je n'en ai pas dit beaucoup. Si je racontais ce qui s'est passé, les gens se diraient c'est pas possible, elle est folle. Mais il faut savoir que c'est comme ça que se déroulent aujourd'hui les carrières universitaires. Et d'ailleurs, je le dis pour que ce soit bien clair, je pense que je suis le seul professeur d'histoire en France qui n'a, de sa carrière, jamais dirigé une thèse. Tellement le mur de feu a été réalisé, aucun étudiant évidemment ne pouvait venir, puisque vous n'allez pas chez un, vous savez comment ça se fait, je ne sais pas si vous savez comment ça se fait à l'université, mais quand on choisit un prof, il y a deux manières de le choisir. La manière de le choisir qui était celle de mon époque, il y a 40 ans, quand j'ai commencé ma thèse en 70, qui consistait à dire, parce qu'il y avait un mouvement ouvrier puissant quand même en France, enfin pas nul, qui consistait à dire, bon, je vais aller chez le prof, quand on était marxiste, je vais aller chez le prof qui est marxiste. Il n'y en avait pas beaucoup, il faut le dire, parce qu'on a expliqué que l'université française était marxiste, ce qui est hautement comique. Mais on s'en allait voir Pierre Villard, quand il n'y avait plus Pierre Villard, on s'en allait voir Jean Bouvier, on n'avait pas beaucoup de choix. Hein. On en avait deux, trois, disons deux à Paris. Bon. Et puis, il y a ce qui s'est passé dans les décennies suivantes. C'est-à-dire exclusivement ce qui était déjà un raisonnement avant, mais qui n'était pas le raisonnement des jeunes marxistes. Bon, alors je vais aller chez qui va m'assurer une carrière? C'est un raisonnement qui est devenu exclusif. Qui est-ce qui peut m'assurer la carrière?
Il faut trouver du boulot après. Hein.
Voilà. C'est-à-dire, moi j'ai connu une collègue sympa, vraiment sympa, qui a changé directeur, parce qu'elle est passée d'une directrice à un directeur de recherche pratiquement à la veille de soutenir, parce qu'elle trouvait que sa directrice de recherche sentait trop le roussi. Et c'est une vieille, hein, c'est quelqu'un de ma génération. Aujourd'hui, ça s'est traduit depuis quelques décennies par la disparition de pans entiers de l'histoire en France. Ça vous explique d'ailleurs le succès phénoménal de l'histoire culturelle, parce que il y a quand même des gens qui doivent se dire que ça mange moins de pain que d'aller prendre des sujets dangereux. Et de l'histoire du genre, parce que pour l'histoire du genre, venu des États-Unis, il y a eu des colloques, des moyens, et le développement phénoménal.
C'est pas très fort quand même, hein, l'histoire du genre. Hein.
Bah oui, mais tu sais, par rapport à d'autres.
Ah non, avant il y avait rien.
Il y avait rien, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de choses par rapport à ce qu'est le champ. C'est ce que nous disait quelqu'un ce matin, que l'histoire du genre était négligée, mais si tu veux, par rapport à ce que, il n'y a plus d'histoire ouvrière. Bon, il y a quand même une histoire du genre, hein, même si l'histoire du genre se sent un peu brimée. Et par contre, il n'y a plus d'histoire du mouvement ouvrier, il n'y a plus d'histoire des classes sociales, il n'y a plus l'histoire du patronat sous forme de classes sociales.
Attends, on va faire quand même une pause musicale, mais il y a une chose qu'on va reprendre là-dessus. Bon, je rappelle, parce que je ne l'ai pas rappelé au début, après la pause musicale, nous sommes en train de parler du livre d'Annie Lacroix-Rise, L'histoire contemporaine toujours sous influence. C'est paru aux éditions d'Elga, Le temps des cerises. Il y a une chose sur laquelle je voudrais vraiment qu'on revienne, c'est justement, puisque tu as fait une sorte de tableau de ce qui se passe actuellement, c'est revenir justement sur le fait qu'il y a quand même des termes qui étaient totalement bannis à un moment donné, qui, au miracle, entre guillemets, hein, je suis athée jusqu'à l'os, reviennent. Donc, je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire. Allez, je vais me faire un peu l'avocat du diable.
Voilà,
depuis quelques années, moi, je vois des choses, déjà en venant à la radio, j'ai vu Marx revient avec des espèces de petites, des petites peintures qui étaient sur le trottoir. Ensuite, maintenant, on parle de la crise du capitalisme.
Oui.
Ça se dit, parce qu'avant, c'était grossier, hein, il y a quelques années.
Oui, c'était obscène.
Attention, on ne fallait pas dire ça.
Absolument.
Hein, parce que ça veut dire capitalisme. On parle même, j'ai même entendu parler de lutte de classe.
Quelle horreur.
De lutte de classe, alors que, quand même, je rappelle que dans les années 80, moi j'avais lu un certain monsieur Touraine qui disait qu'il n'y avait plus de lutte de classe, qu'en fait il n'y avait plus qu'une grande classe moyenne avec un petit peu en haut quelques petites exceptions et en bas quelques petites exceptions.
Quelques petits exclus.
Voilà, quelques petits exclus. Et qu'en fait, nous, la France, c'était comme un grand ballon de rugby, hein, c'est la grande classe moyenne, etc. Donc depuis quelques temps, on va dire depuis quelques années, oh, surprise, on parle de capitalisme, on parle de méfaits du capitalisme, on parle des banques avec la crise du capitalisme, etc. Et donc là, il y a quand même quelque chose qui est en train de se déverrouiller, j'espère, du moins je suis volontariste, donc je l'espère très très fort. Et aussi, ce qui me donne aussi à penser, c'est ce qui se passe en Grèce avec les réactions très fortes. J'ai reçu dernièrement une jeune journaliste qui a fait son premier film qui a pour titre, qui sort le 10 octobre et qui est formidable, qui s'appelle Chaos,
oui,
les visages humains de la crise grecque.
Et je faisais une conférence à Élancourt il y a 2 jours et quelqu'un m'a demandé justement si je pourrais venir regarder le film et qu'on organise un débat. Et
parce que là,
c'était très
c'est volontiers, laissant
hein.
voix. Oui, et quand absolument. Tu as une prof justement qui dit, moi avant je gagnais 1 500 euros.
Ça sort tout juste. Hein, ça,
le 10 octobre, ah, ça sort le 10 octobre.
Parce que je lui ai dit, je ne l'ai pas vu, elle m'a dit oui, c'est pas sorti.
Et ça sort le 10 octobre et voir, quand tu vois la prof qui dit, je gagnais 1 500 euros et maintenant j'en gagne que 900, comment voulez-vous que je m'en sorte? Quand tu vois des personnes qui travaillent, un couple qui travaille dans une style office des HLM, etc., qui se mettent du troisième étage et qui disent, je vais me jeter parce que
ils ont perdu 40% de leur pouvoir d'achat.
Voilà.
C'est pas compliqué.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en 3 ans, ils ont fait ce qu'il a fallu l'occupation allemande en France pour faire en 4.
Et quand tu vois ce qui se passe, et quand tu vois aussi ce qui se passe en Espagne, en Espagne où les réactions sont de plus en plus fortes, là ça commence aussi en Italie où la classe moyenne est en train d'être paupérisée, mais à mort également. Oui. Donc tu te dis, mais peut-être que.
Ah bah, tu mets l'accent sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire précisément les limites de l'idéologie. C'est-à-dire que le champ historiographique est forcément un champ qui est encore très marqué par l'idéologie dominante, tout simplement en raison des conditions d'exercice de la production historique, c'est-à-dire des financements européens, des financements de recherche à certaines recherches et pas à d'autres, etc. Donc ça, c'est lourd. La crise peut continuer à se développer, ça va rester comme ça. Mmh. Mais on le sait très bien, l'idéologie, elle est opératoire jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et quand est-ce que l'idéologie cesse d'être opératoire? Comme disait Lénine, quand ceux d'en bas ne supportent plus la tutelle de ceux d'en haut. Or, tout le monde comprend, je crois que tout le monde le comprend, évidemment, du faible échantillon que j'ai dans les conférences que je fais, où je ne vois qu'une toute petite partie de la population, mais tout de même, je vois même des gens que je ne voyais pas il y a 15 ans. Qu'est-ce qui ressort de la période d'aujourd'hui? C'est que la masse de la population trouve la situation de plus en plus infernale. Qu'on lui sert toujours la même idéologie, je dirais qu'on la sert à dose accentuée. Regardez la manière dont on est en train de nous justifier le fameux traité européen dont l'homme du changement maintenant nous jurait qu'il allait le renégocier, etc. Bon, je dois vous dire d'ailleurs que sur des listes universitaires, j'avais un collègue un peu provocateur qui passait son temps à montrer que la politique du gouvernement en cours, enfin de Hollande, serait la même que la politique de Sarkozy, et que des collègues sont allés jusqu'à traiter de fasciste, hein, en pensant qu'ils voulaient absolument faire réélire Sarkozy. Bon, mais il y a un moment où, quelle que soit la force de l'idéologie, les choses craquent, et tout le monde sent bien historiquement en ce moment que on est en train de vivre des ébranlements que très peu je dirais de survivants peuvent avoir connu, c'est-à-dire que ceux qui doivent bien sentir à quel point les choses ressemblent à la crise des années 30, ce sont évidemment les gens, il n'y en a quand même pas beaucoup, qui sont nés en 1920 et qui sont encore là. Bon, ceux-là se rendent bien compte, eux, personnellement, que la crise d'aujourd'hui est quelque chose qui ébranle au moins autant, moi je pense plus, parce que la crise de surproduction du capital est forte, est plus forte qu'en 1929, qui sent très bien qu'on est entré dans une période d'ébranlement comme celle qui a accompagné la crise des années 30. Et c'est ce qui fait le caractère passionnant pour l'observateur extérieur, même pour l'observateur de l'intérieur, même s'il se dit que c'est quand même très embêtant. C'est ce qui fait le caractère passionnant de la période actuelle, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'on est au maximum de l'offensive idéologique de la très grande bourgeoisie, et on comprend bien qu'on arrive à un moment historique où, quelle que soit l'offensive idéologique de cette grande bourgeoisie, le monde va craquer. C'est-à-dire qu'on continue à être persuadé que le capitalisme est la seule solution, qu'il n'y en a pas d'autre, incontournable. Mais je dis toujours aux gens qui doutent qu'on soit proche de transformations de type révolutionnaire, je leur demande toujours, et c'est une question qui les trouble, s'ils pensent que les bolcheviques ont fait la révolution ou ont participé à la révolution russe parce qu'ils étaient révolutionnaires. Non, il n'y avait rien de plus réactionnaire et abruti que les bolcheviques. Ceux qui doutent peuvent aller lire, par exemple, la merveilleuse nouvelle, le quasiment petit roman de Tchekhov, Les Paysans, et ils se demanderont comment ils ont pu participer à 1917. Pourquoi ils ont participé à 1917 ? Parce qu'ils n'en pouvaient plus. Or, on sent, par les temps qui courent, que l'idéologie craque. Même cette idéologie qu'on nous sert tous les jours de 0 à 24 heures en nous disant qu'on ne nous fait pas assez de pédagogie pour nous faire aimer l'Europe. On le sent. Tous les thèmes de mensonges sont encore diffusés et on sent qu'ils craquent. C'est-à-dire que on entre dans une période où on sait très bien que bon, soit le capitalisme va être en mesure de déclencher une guerre générale, soit des révolutions vont l'empêcher ici ou là. Bon, si on pense que les choses vont marcher comme elles ont marché dans la période antérieure, il est permis de penser, oui, que si les peuples ne disent pas non avant, il y aura une guerre générale. Bon, c'est-à-dire que, oui, il y a un hiatus de plus en plus grand entre le journalisme dominant, l'historiographie dominante et l'expérience des gens. À qui peut-on faire croire aujourd'hui qu'il est absurde de parler de classe sociale aux intérêts opposés ? Moi, je fais toujours des conférences et je dis aux gens, écoutez, si on ne veut pas revenir à ce qui a quand même été connu dans une partie de la société pendant longtemps, à l'idée, d'abord à Marx, c'est-à-dire, et à tous ceux qui l'ont précédé, voire ceux qui l'ont accompagné, si on ne veut pas revenir à l'idée que la catégorie du salaire et la catégorie du profit sont antagoniques, eh bien on ne comprendra jamais rien. Or, c'est l'effet de l'offensive idéologique, de la liquidation du mouvement ouvrier, c'est que presque personne ne sait maintenant interpréter le réel. C'est-à-dire tout le monde se dit que ce monde est invivable, mais personne ne sait, ou presque, comment en sortir, ou n'imagine comment en sortir.
Non, mais on commence à parler du marxisme.
Voilà.
Et plusieurs, si tu veux, même j'ai entendu à la radio des personnes qui disent, mais finalement, on ne peut pas jeter Marx parce qu'il a une analyse, même si on n'est pas d'accord, on ne peut pas jeter son analyse
mais
économique.
Bien sûr, mais, voilà. mais
donc ça se dit maintenant.
Ça veut dire que les forces sociales travaillent maintenant de telle sorte que le carcan, la chape de plomb idéologique, bien sûr, va prendre des coups. Mais le sort des hommes, le sort de l'humanité ne change jamais parce que l'idéologie change. L'idéologie de la classe dominante, c'est l'idéologie dominante. Vous ouvrez TF1, TF1 va pas demain organiser des débats sur le marxisme. Ce qui va se produire, c'est que...
Ou l'anarchisme, encore
voilà,
mieux.
c'est que les masses vont à un moment, en Grèce, en France, en Espagne, ailleurs, vont à un moment faire irruption. Exactement comme elles ont fait irruption en 1789 ou comme elles ont fait irruption en 1917 ou en 1949 en Chine. Voilà ce qui va se produire. Et même avant, parce que ça a duré longtemps, le processus chinois.
Et dans l'histoire française.
C'est pour ça que je dis, à la fin, et pas, je le disais tout à l'heure, pas seulement pour me faire plaisir, en quelque sorte pour me consoler. Je fais la remarque que le caractère systémique de la dépression nous rapproche de sa solution. Bien sûr, il y aura une solution. Moi, je souhaite vivre assez pour l'avoir, mais je rappelle toujours que Lénine disait en janvier 1917, à une réunion du parti bolchevique, « Chers camarades, nous sommes trop vieux, nous ne verrons pas la révolution. » Ce qui est propre à la révolution, c'est que jamais personne ne peut la prévoir. Ce qui est sûr, c'est que malgré les fantaisies idéologiques dans lesquelles se sont inscrits ce que j'appelle les historiens raisonnables, c'est-à-dire les historiens qui font le haut du pavé et qui font passer les autres pour des dingos. On sent que les choses percent. Et ce que tu dis veut dire aussi que des éléments s'accumulent pour qu'il existe à nouveau un mouvement ouvrier vertébré qui, dans les décennies précédentes, s'est écroulé. Mais c'est vrai de toute crise. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier s'est reconstitué dans la crise de 1873. Ça a mis 40 ans et même plus de 40 ans, mais ça s'est fait. Le mouvement ouvrier a repris les joues roses, même parfois il les a pas reprises, mais bon, des éléments se sont accumulés pour les changements à la faveur de la crise des années 1930. Et que c'est de ces changements, c'est vrai, très certainement, que viendra la possibilité de travailler dans un champ historiographique plus libre. Qu'est-ce qui s'est passé en France qui a donné au champ historiographique, disons, des capacités critiques? Il s'est passé la crise des années 30, les combats de la résistance, qui ont permis, non pas du tout que le marxisme domine l'université, il n'y a que les ânes bâtés qui peuvent seriner une chose pareille, jamais le marxisme n'a été, je dirais même substantiel à l'université, jamais il n'a été majoritaire, ça va de soi, mais on avait des petites capacités critiques, et quand il existait en France un mouvement ouvrier fort, les intellectuels ne le savaient pas, mais ça leur assurait un certain champ de critique. C'est ce champ de critique qui a été liquidé quand, à partir des années 1980, la réaction, la contre-révolution a occupé tout le champ. Parce que c'est ça la vraie question. C'est que le patronat, le grand patronat, celui qui dicte notre vie, il est en mesure pratiquement d'opérer sur tous les champs. Il n'y en a aucun qui soit libre. Le champ journalistique, c'est une évidence, mais c'est vrai du champ scientifique et même du champ des sciences sociales. Je dis bien en tendance, parce que naturellement qu'il y a une petite production critique. Il y a quelques sociologues critiques, il y a deux, trois historiens critiques, bien sûr. Mais la population qui écoute TF1, elle ne le sait pas. Et finalement, c'est ça qui est important, c'est la population qui écoute TF1. C'est TF1 et la population qui l'écoute. Le reste ne compte pas, ou ne compte pas pour grand-chose. Mais évidemment, le reste a quand même une fonction importante où les transformations qui vont s'opérer, à mon avis, elles s'opéreront d'autant plus, d'autant mieux, qu'un certain nombre de gens auront réfléchi sur l'organisation nouvelle, sur la manière de se battre, etc. Parce que, je le dis toujours, et c'est ce que mes collègues ont trouvé d'ailleurs insupportable, la guerre de classe, c'est une constante. C'est ça d'ailleurs que l'historiographie raisonnable nous a fait oublier. La guerre de classe, Buffett d'ailleurs l'a dit très bien. Il a dit, la guerre de classe, elle existe, mes petits jolis, et vous, comme des imbéciles, vous ne le savez pas, ça explique pourquoi nous qui la menons, et la menons très bien, nous la gagnons. Bon. Et la violence de la crise est en train de faire surgir, malgré la pression de l'idéologie, l'idée que finalement, mais la guerre de classe, ça existe peut-être. Il n'empêche, j'entendais l'autre jour l'émission de Mermet, j'entendais un chauffeur de taxi bien, vraiment bien sympathique qui disait « Oh là là, moi j'étais fils de militant communiste, quoi, j'en suis malade, je discute avec mes collègues, un routier, je discute avec mes collègues, Madame Bettencourt, il trouve ça très sympathique, l'exil de Bernard Arnault, très sympathique, parce que quand même, ma foi, assure si gentil, n'importe quel parent fait ça, hein. C'est tellement sympathique de frauder le fisc, tout ça. On aime, évidemment, quand on a trois sous à cacher, on a les mêmes sentiments d'empathie à l'égard de Madame Bettencourt et à l'égard de Monsieur Arnault qu'à l'égard du Pékin d'en face. » Et il disait, mais j'en suis malade, parce que ces gens-là considèrent que le prof est l'ennemi, que le gars qui gagne 500 euros de plus que lui est un riche, etc. Bon, mais il y a un moment, évidemment, où les choses changent. Moi, ce que je pense, c'est que, après tout, il y a déjà, pour les scientifiques, une situation idéologique, enfin, une situation des rapports de force qui permet aux scientifiques de faire, comme dit Marx dans la thèse, la 11e thèse sur Feuerbach, de faire quelque chose de très important, c'est-à-dire d'analyser le monde. Analyser le monde, c'est quelque chose de très difficile. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire. En tout cas, on ne peut plus le faire dans le champ universitaire. Et il y a des moments où on a pu le faire davantage. Tellement la grande bourgeoisie l'a emporté. Tellement on s'est trouvé dans une situation où on faisait prendre à la population les vessies pour des lanternes et on suscitait chez les gens des réactions du genre « Mais vous vous rendez compte comme ils ont été malheureux alors que leur grand-père était si calomnié et c'est bien normal de vouloir défendre son grand-père. Hein, c'est bien normal évidemment de faire en sorte que le contribuable français, après que son grand-père eut payé pour Renault pour rembourser les bombardements de Renault, parce que Renault travaillait pour le Reich, pour rembourser aux frais du contribuable les dommages des bombardements, pour assurer à Renault 12% de taux de profit, vous m'entendez bien, des profits à deux chiffres, c'est neuf, pas du tout. Renault a eu 12%. Assuré par le comité d'organisation de l'automobile d'une part et les Allemands d'autre part, tellement ils servaient bien le Reich. Hein, alors que les petits avaient 6%, les moyens avaient 8%, et les gros autres avaient Citroën, c'est-à-dire Michelin, et Peugeot avaient 10%. Bon. Et vous êtes à une situation historiographique telle que vous avez des gens, plein de braves gens qui vous disent, quand vous allez distribuer un tract pour montrer quand même qu'on peut pas laisser le contribuable payer les héritiers de Renault, vous avez des gens qui vous accueillent en disant « Bon, enfin quand même, ça a été un grand constructeur, patati patala. » Donc, on est à une époque où on n'est même pas dans les conditions, dans le premier énoncé, si je puis dire, de la 11e thèse sur Feuerbach, c'est-à-dire ce moment où Marx dit « Jusqu'ici, les intellectuels ont analysé le monde. » Non. On est avec une pression du capital telle que les intellectuels ne peuvent même plus analyser le monde. Or, que dit Marx ? Marx dit, jusqu'ici les intellectuels ont analysé le monde, il s'agit de le changer. C'est-à-dire que là, c'est quand même un saut en avant. Hein. Mais ce qui montre, ce qui laisse entendre que oui, on est proche de transformations profondes, c'est que c'est objectivement que se dessine la nécessité pour les intellectuels de ne pas seulement interpréter le monde, mais de contribuer à le changer, c'est-à-dire dans des conditions de crise du système. Or, quand Marx dit ça, dans les années 1840, on est dans le cadre de la première crise presque totale du capitalisme. C'est-à-dire de la première crise systémique du capitalisme. La crise de 1845-1848, qui est une crise de type intermédiaire entre la crise de type capitaliste, la vraie crise de surproduction du capital, et la crise de agricole d'ancien régime. Et puis après, on est entré dans les crises purement capitalistes, c'est-à-dire la crise de 1873 qui a débouché sur 1914, la crise de 1929 qui a débouché sur 1939. Et si on laisse la population réfléchir sur ce qui se passe pendant les crises, bien entendu qu'on lui inspire, d'abord on l'aide à comprendre aujourd'hui et on l'aide à ne plus avoir peur, c'est-à-dire à bien comprendre que le capitalisme ne disparaît que dans le fracas et que il vaut mieux utiliser son fracas avant qu'il ne déclenche le fracas général. Bon. Ça, aucune garantie n'existe que ça se fasse. Mais oui, on est dans une période où l'idéologie dominante va forcément reculer. Pas de manière linéaire, parce que ça craquera ici et là, et que quand ça craquera, ben, il se produira des phénomènes comme ceux qui se sont produits à la faveur de toute crise systémique du mode de production. Qu'est-ce que c'est que 1789 ? 1789, c'est une révolution qui intervient au terme d'une entrée de la féodalité dans une phase de la crise qui n'est plus supportable par les paysans. Bon, bah ils se fâchent et ils aident la bourgeoisie à renverser l'aristocratie. Bon, qu'est-ce qui se passe en 1917 ? Il se passe que la population russe n'en peut plus. Bon, et que il se fait une révolution avec les masses avec les masses agricoles, même si ça n'est pas une révolution agraire, ou purement agraire. Bon, bien sûr qu'on va entrer dans une phase de ce type. En attendant, dans les 30 dernières années, on s'est trouvé dans une situation de blocage du savoir historique, et de blocage du savoir historique auquel ont contribué les historiens eux-mêmes. Et bien entendu, moi, j'analyse un champ. Quand on analyse un champ, on met évidemment la loupe sur le champ, on risque après tout de modifier les équilibres, d'accorder plus d'importance à son champ propre que de voir comment son champ propre s'inscrit dans un élément plus général. J'essaie de ne pas le faire, bien que j'ai analysé mon champ propre. Et qu'est-ce que j'en déduis ? J'en déduis qu'on est arrivé à une situation telle que, bien que n'étant pas les artisans, bien sûr, de cette embrouille idéologique, de cette volonté systématique de laver le cerveau des populations, les historiens dominants se sont inscrits dans ce projet patronal et dans ce projet étatique, incontestablement, par toute une série de preuves desquelles, je pense, j'apporte l'essentiel, c'est-à-dire en montrant concrètement, historiquement, même si sur 30, c'est sur 20 ou 30 ans, comment les choses se sont faites pour laver le cerveau. Qui a organisé le lavage de cerveau et qui a fait ? Je suis quand même bien obligée de constater que les historiens ont occupé dans le lavage de cerveau une place qui n'est pas négligeable. Et c'est pour ça que j'ai fait l'épilogue, j'ai traité dans l'épilogue le cas Renault, parce que le cas Renault est un cas absolument emblématique. Regardez, tout d'un coup, ça nous saute à la figure. L'hebdomadaire de référence nous explique que Renault est un brave homme, que sa petite fille, cette charmante Hélène Renault, qui a épousé un historien, sous l'effet de l'amour et de la révélation de la vérité, a consacré sa vie à démontrer que Renault n'était pas du tout ce qu'on avait raconté pendant les décennies précédentes. Donc, sous l'effet de ce couple, évidemment, on se rend compte qu'on s'est trompé. Renault n'était pas fasciste, Renault n'était pas méchant. D'ailleurs, vous observerez, pour ceux qui vont aller regarder le reportage du journal ou du magazine de référence, puisque je fais allusion ici au Monde Magazine du week-end, vous observerez que c'est très amusant. Les journalistes ont affirmé qu'il n'était pas si fasciste que ça, même dans l'entre-deux-guerres. Moi, j'ai affirmé le contraire, évidemment. Je renvoie les lecteurs à mes deux ouvrages, Le choix de la défaite et Dominique à Vichy, qu'on vienne m'expliquer. D'ailleurs, on me l'a pas expliqué, parce que on a enterré mes ouvrages, mais on n'en a pas discuté le contenu. Ils nous ont expliqué que Renault était bien brave, comme le hideux, mais ils n'ont pas osé, dans l'organe de référence, ils n'ont pas osé traiter de Renault avant-guerre. Figurez-vous, ils en ont choisi un autre. Ils ont choisi Delaroque, qui est un fasciste fini, qui a fricoté avec l'Allemagne comme tout le monde, comme Renault et les autres, et avant-guerre. Et je le montre dans les mêmes ouvrages. Ils n'ont pas osé faire une page pour nous expliquer que Renault n'était pas fasciste avant-guerre. Ce qui veut dire que Monsieur Thomas Vider, journaliste au Monde, mais agrégé d'histoire, a quand même des scrupules certainement imputables à sa formation initiale. Et puis, ils nous ont expliqué que pendant la guerre, rien de grave. Ça, c'est en 2011. Vous vous dites, bah voilà, en 2011, grâce aux efforts de la famille, on a découvert. Mais non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, ces jeunes gens, ou moins jeunes gens, qui avaient quand même envie, ayant touché tout l'héritage de Renault, c'est-à-dire toutes les propriétés foncières, toute la richesse personnelle dont il était allé organiser la fructification aux États-Unis en 1940, parce que au contraire de ce que racontent les ânes bâtés, les crétins ou les crétins volontaires, il n'est pas du tout allé préparer quoi que ce soit en matière de guerre en allant aux États-Unis en 1940, il est allé tout s'occuper de ses sous. Bon, eh bien, sur cette base, Les héritiers, qui avaient fort envie, bien que très riches et bien que fort pourvus, de toucher les actifs industriels, c'est-à-dire des milliards, hein, Renault était la plus grande entreprise de la France. Et inutile de vous dire, avec ce que j'ai raconté sur son taux de profit sous l'occupation et sa production sous l'occupation, que sa fortune, c'était certainement sous l'occupation autant démultipliée que pendant la Première Guerre mondiale, où elle avait plus que décuplé sous l'effet des bienfaits du contribuable. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces bonnes gens? Ils payent une fausse historienne, à qui ils payent une thèse, que j'ai lue, je l'explique dans le livre, qui n'est ni faite ni à faire, vous m'entendez bien, ceux qui connaissent un peu l'histoire, dans un petit bouquin, 2 pages de sources, pour une thèse. Hein? Moi, je demandais à mes étudiants de maîtrise d'avoir plusieurs pages de sources, je ne parle pas de la bibliographie, je parle des sources originales. Une thèse, je ne vous raconte pas, ni faite ni à faire, une thèse qui s'appelle, qui a un très beau nom, la collaboration économique franco-allemande grâce à l'exemple de Renault. Vous vous précipitez sur cette thèse, je vous signale qu'elle n'existe pas en France, elle existe à l'école normale supérieure, si on a qui veulent aller la consulter à la bibliothèque. Bon, elle est nulle, la thèse. Elle s'arrête à 42-43 et elle ne vaut même pas. Moi, je l'aurais pas fait soutenir comme maîtrise. Cette petite femme travaille en même temps à la bibliothèque, travaille chez Bertelsmann à Paris et à l'ambassade à Paris, je vous prie. À l'ambassade à Paris, n'importe quel Pékin travaille à l'ambassade, n'importe quel Allemand travaille à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Hein. Vous imaginez la jeune fille comme elle était bien encadrée, bien recommandée. Elle sort son bouquin, personne n'en entend jamais parler, en lisant on comprend pourquoi. Elle se met à faire de la communication, une boîte de communication. Regardez, ceux qui sont curieux vont aller pianoter et puis ils vont aller regarder RIS, R-I-E-2-S, tiret Ostler. Et ils vont voir qu'elle fait, elle travaille dans les médias et qu'elle fait de l'assistance supplémentaire en langue je vous prie, pas en histoire. Pour les enfants privilégiés de Garmisch-Partenkirchen, pour les gosses des boîtes catholiques. Bien ? Alors, personne n'en entend parler. Et puis, à la fin des années 1990, il commence à y avoir des livres sur Renault. Sympathique. Emmanuel Chadeau, paix à ses cendres, il est mort. Qui lui dit quand même que Renault a fait quelques dérives, mais heureusement son neveu très bien a tout rectifié. Alors vous allez bientôt lire dans Industriel et banquier sous l'occupation comment le I2 est encore nettement pire que ce que j'ai décrit en 1999. Mais enfin, vous avez le I2 d'avant-guerre dans mes bouquins sur l'avant-guerre, vous serez déjà fixé. Et puis après, il y en a un autre, figurez-vous, un gars qui s'appelle Dingli, qui fait un Renault. Alors, moi, je le regarde dans une bibliothèque, je tombe à la renverse tellement c'est nul, c'est encore plus nul que Chadeau, mais alors là, Renault, très bien. Un mec qui s'appelle Dingli. Personne ne le connaît, c'est pas grave, hein, on peut ne pas être connu, et très bien. Bon, voilà. Et puis un autre bouquin qui paraît en 2008 par un gars qui fait de la publicité, je sais pas quoi, et de la photo, lui aussi trouve que Renault est magnifique. Oui, ça chemine, ploum, ploum. 2002, 2001, 2008. Et puis, personne n'en entend parler, les héritiers, les chouchous, là, si malheureux, à l'enfance tellement terrible, qui a été ravagé par l'insulte d'être petit enfant de collaborateur. Bon, et alors, moi, j'ai bien surmonté mon existence de petite fille, de déportée à Auschwitz, c'est mort là-bas, hein, chacun son camp. Bon, et ils s'en vont un beau jour, en 2009, attaquer le musée, le centre de la mémoire d'Oradour. Parce que ce grand culotté, il a collé une photo de Renault de 39 qu'il a légendé 38, mais enfin c'est pas l'essentiel. Renault qui est à côté de Hitler et Göring, en train de deviser gaiement au salon de l'automobile de Berlin. Mais il n'était pas du tout collaborateur, c'est parce qu'il aimait la paix, ce brave garçon. Oh bon. Et alors centre de d'Oradour-sur-Glane explique que Renault a collaboré pendant la guerre et puis qu'il a fabriqué des chars. Et voilà, c'est très pertinent. Et d'ailleurs, Il l'avait trouvé dans mon livre « Industriel et banquier sous l'occupation ». Je suis toujours pas au courant. Les militants CGT qui avaient passé des décennies à essayer d'empêcher l'encadrement et la direction de Renault d'appeler les salles Renault, les rues Renault, etc., ne le savent pas non plus, parce qu'on nous prévient, on ne nous prévient pas. 2009. Bon, ça c'est avril 2009. En octobre 2009, ils prennent la pâtée. Parce que le tribunal de grande instance de Limoges leur dit « Allez vous rhabiller, il y a Madame Lacroix-Risse qui a écrit dans son ouvrage, et puis il y a des citations de l'ouvrage. » Non, ils font appel. Méfiez-vous des cours d'appel. Hein. Je crains les Grecs, moi, même quand ils apportaient des cadeaux. Évidemment, c'est pas anti-grec ce que je raconte, c'est Virgile. Bon, c'est-à-dire, vous voyez, les gens qui veulent me faire plaisir, je les crains même quand ils m'apportent des présents. Bon, enfin bref, et la cour d'appel condamne le centre d'Oradour-sur-Glane à payer 2000 euros, un petit centre de misère, qui entretient ce qu'on appelle le souvenir, enfin un petit peu de mémoire d'histoire quand même. Hein. Bon, ils se font condamner, alors sous l'argument qu'il y a quatre autres historiens qui sont contradictoires avec Madame Lacroix-Risse. L'embêtant, c'est que Madame Lacroix-Risse, elle a fait des travaux sérieux, les quatre historiens n'ont jamais vu une archive sur les chars, etc. C'est pas grave, il y en a quatre contre une. La cour d'appel qui fait l'histoire, hein, alors que l'autre avait dit « foutez-nous la paix, nous on s'occupe pas d'histoire, Madame Lacroix s'en est occupée, c'est très bien. Et le musée fait ce qu'il veut. » Non, là ils disent non. Et 200 euros par jour d'amende. Bon, ben les pauvres malheureux, en plus, ils nous racontent rien. Et puis ça se passe, ça, en juillet 2010. On sait rien, vous savez quand on a su. On a su en janvier 2011, quand le journal de référence a lancé l'affaire. Pendant plusieurs mois, on a les héritiers qui viennent couiner sur les diverses antennes, parce que les cégétistes et moi, on nous entend jamais. Hein. Nous, on n'existe pas, on raconte n'importe quoi, on est idéologique, on s'inscrit dans le camp qui n'aime pas Renault, oh là là, comme c'est pas scientifique. Donc ces messieurs dames, et en particulier Dingli, le fameux historien, parce qu'on est dans une France où un historien moderniste qui travaille sur commande pour Renault n'est pas contesté alors qu'il est le mari de l'héritière de Renault qui touchera une partie des milliards si les héritiers Renault ont raison. Ça s'appelle pas un conflit d'intérêts. Il va sur les télévisions, il va sur les radios. Et ils nous font la sérénade. On aimait tant notre grand-père, il était très bien, dit l'historien, oh, dit la petite fille, oh là là, il faisait pas de politique, il était démocrate. Enfin, je vous en passais des meilleurs, tous ceux qui connaissent les moyens d'information le savent. Et puis le 9, mais on veut réhabiliter notre grand-père. Ils l'ont dit d'ailleurs dans le journal de référence. Seulement réhabiliter, c'est absolument pas une question d'argent. Ah, mais dit l'un des petits-fils quand même, ah... Mais si on nous refuse la raison, nous attaquerons l'État. Ben, c'est ce qu'ils font le 9 mai 2011. Ils attaquent l'État. Mais ils attaquent l'État en indemnisation, je vous prie. En indemnisation des actifs majorés des intérêts depuis le 16 janvier 1945. Parce que ceux qui se bougent pas les fesses là, il faut quand même qu'ils comprennent qu'ils vont, si les héritiers ont raison, qu'ils vont payer des milliards. Hein, comme pour les divers scandales, les diverses banques hein, qu'on a soutenues et puis qui maintenant enfoncent les Grecs dans la misère, comme on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Bon, alors, le procès est en cours, nous venons d'avoir une dernière audience le 18 septembre, il va y avoir un délibéré le 21 novembre, parce que ils se sont fait... Ils ont enregistré un échec avant les vacances, hein, mais ils ont fait appel. Donc imaginons que la cour d'appel leur donne raison. J'ai oublié de dire en plus l'essentiel. Alors la thèse, elle avait servi à quoi? Ben le 10 mai, alors qu'ils avaient attaqué l'État le 9 mai. Figurez-vous que, grosse manchette du New York Herald Tribune, peut-être du New York Times, une thèse scientifique d'une historienne allemande démontre que Renault n'a pas collaboré. Oh, mon Dieu, ce machin qui avait été soutenu en 2001. C'est-à-dire que le Pékin qui voit sortir l'affaire, il se dit, tiens, ça vient de surgir. Mais vous vous rendez compte, depuis combien de temps il mitonne le coup, avec la complicité d'un certain nombre d'historiens? Alors vous me direz, mais qu'a fait l'historiographie? Les fameux historiens dont Nicole Vulser dit qu'ils s'échinent à établir la vérité historique sur l'occupation. Ils se sont mis le derrière sur l'affaire. Pendant des années, il y a eu une réhabilitation de Renault. Ils sont historiens et formateurs civiques. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, ils ne savent pas. Et puis l'affaire est venue. Et puis évidemment, les journalistes ne sont pas venus interviewer les cégétistes et Annie Lacroix-Risse. Ils sont venus interviewer M. Fridançon, le grand spécialiste de Renault, qui n'a jamais regardé un papier de guerre, puisqu'il a fait un ouvrage, et pas une thèse sur Renault, qui s'est arrêté à septembre 1939 et qui n'a jamais regardé un ouvrage sur la guerre. Qu'est-ce qu'il a dit, M. Fridançon? Comme son copain Loubet, qui travaille sur Peugeot. Après avoir dit l'un et l'autre que Renault avait été un collaborateur exceptionnel. On ne sait pas. Ah ben, il n'a pas pu faire autrement. Mais qu'est-ce qui arrive aux historiens professionnels? Les historiens professionnels sont des sauveteurs du grand capital en perdition? Mais vous vous rendez compte? Comment est-ce que moi qui travaille depuis des années, depuis les années 80 sur la collaboration économique, comment est-ce que moi, je pourrais ne pas dénoncer une entreprise, une supercherie couverte par des gens qui ont fait le même type d'études que moi, qui sont aussi compétents que moi, certes pas sur le Renault de la guerre, mais sur des tas de questions, y compris qui savent des choses, puisque Loubet, pendant des années, lui, il est financé par Peugeot, et il dit que Peugeot est un résistant. Et résistant, comme moi, je suis brodeuse ou archevêque. Hein? Bien entendu que Peugeot, il n'était pas du tout résistant. Il est même sur la même liste d'industriels et banquiers à arrêter en priorité du 28 août 1944 que Renault et le I2. C'est un collabo autant. Mais enfin, personne n'a réussi, c'est vrai, à faire aussi bien que Renault. Donc, ce Loubet qui pendant des années, jusque dans les années 2000, a écrit des bouquins dans lesquels, y compris un bouquin sur Renault, dans lesquels il dit que Renault est un collaborationniste exceptionnel qui l'oppose à son cher Peugeot. Comment est-ce que Loubet a pu, au lendemain de l'attaque des héritiers, expliquer que Renault n'avait fait que ne pouvait pas faire autrement? Mais c'est une honte. Mais il est impératif que la population française sache qu'il y a actuellement des historiens qui abdiquent leur devoir, qui est un devoir à la fois de scientificité et de formation civique. Eh bien, comme disait l'autre, je me réclame de grands ancêtres, c'est-à-dire notre Victor Hugo sur son rocher. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Eh bien, s'il n'en reste qu'une, je serai celle-là et je m'en félicite.
Voilà, mais ça sera la fin. On a encore beaucoup de choses. On n'a pas évoqué pas mal de choses, notamment aussi, j'aurais bien voulu qu'on parle avec toi, puisque tu as parlé des différentes crises depuis le 19e siècle. Moi, j'aurais voulu qu'on parle aussi de 30, on se fera autre chose, de 30, de 48 et de 71, qui est pour nous évidemment quelque chose de très important. Je voulais simplement donc vous rappeler le titre du livre d'Annie Lacroix-Risse, c'est L'histoire contemporaine toujours sous influence. C'est publié donc aux éditions Delga, Le temps des cerises.